Les presses universitaires de Vincennes, la bibliothèque universitaire et le service communication de l'Université Paris 8 poursuivent leur série de podcasts sur le thème de la création. Nous écoutons aujourd'hui Chloé Tisserand. Elle vous présente son essai « Calais, une médecine de l'exil » qui réfléchit sur les conditions d'accès aux soins des personnes migrantes. Vous pourrez également écouter des lectures d'extraits de ses carnets de terrain, un exemple des nouvelles façons d'écrire la recherche.
Je suis Chloé Tisserand, je suis sociologue et j'enseigne à l'Université de Lille. Et je suis également documentariste et anciennement journaliste. Pour présenter l'essai donc, qui s'intitule « Calais, une médecine de l'exil », donc, je suis partie d'un constat de me dire qu'il y avait une multiplication des lieux frontières en Europe et que finalement les acteurs de la société dite d'accueil sont confrontés aux exilés et à la crise de l'accueil des exilés. Et donc je me suis intéressée dans ce contexte aux professionnels de santé, des permanences d'accès aux soins de santé, donc les PASS, et notamment les PASS de Calais et de Dunkerque qui se situent à la frontière franco-britannique. Et l'idée de cet ouvrage, qui est issu d'un travail de thèse, c'est d'interroger la façon dont le travail des professionnels de santé s'est transformé. À travers ces transformations, j'interroge un peu la relation soignant-soigné-exilé, le rapport avec la différence des patients, la différence culturelle, et aussi comment le rapport émotionnel s'est transformé au contact des patients exilés.
Effervescence et concentration sont palpables en ce début d'après-midi. Dans le bureau d'enregistrement, la secrétaire médicale est derrière son ordinateur, concentrée pour essayer de trouver la trace d'un passage antérieur du patient. Le médiateur linguistique, accroupi, regarde pêle-mêle les boîtes de classement installées dans un des meubles, tandis que l'infirmier, assis avec un tas de dossiers, commençant par la lettre A, posée sur les genoux, les égrène pour trouver le bon nom. Puis chacun se remet de ses échecs, se relève, se croise pour chercher un indice sur une autre étagère. Peut-être la plus petite contient-elle les dossiers de ceux qui viennent régulièrement. Demande à la dame si c'est son vrai nom. MDM, médecin du monde. C'est mal écrit. Ça fait 20 minutes que je cherche après le monsieur et en fait c'est pas pour lui, c'est pour sa femme, râle un infirmier. L'autre infirmier demande au patient. Sorry mister, your exact name? Capedoc? Cameda? Le premier infirmier souligne. Attends, il monte ses papiers. Ça vient de MDM, ça ira mieux. Capedoc, comme ça. L'autre infirmier. Avec un A ou un E? Tiens, j'en ai un là. Si au bout de toutes leurs tentatives, les soignants ne parviennent pas à trouver le bon dossier, ils en recréent un.
Carnet de terrain 2015 à la passe de Calais. Cette étape de l'accueil est, on le voit, un véritable casse-tête. La plupart des patients donnent le nom de leur père pour s'identifier. L'identité délivrée aux professionnels de santé est souvent fausse. Sous la menace de l'expulsion que fait planer le règlement Dublin III, les exilés sont en effet contraints de vivre dans l'anonymat et de laisser le moins de traces possible dans les pays traversés. De cet ouvrage, c'était de rappeler que en fait, les patients exilés vivent des épreuves, notamment la désaffiliation sociale qui induit une perte et une érosion du lien social et du lien relationnel. Une autre épreuve qui est l'arrachement au pays, le déracinement, et enfin l'incertitude migratoire. Et donc ces trois épreuves vont créer de la vulnérabilité à la fois corporelle et psychique. Et mon interrogation, c'était de me dire comment on prend en charge ces patients qui ont traversé ces épreuves. Et n'assiste-t-on pas là à l'invention d'une nouvelle forme de médecine ?
Le médecin à l'infirmière. Pour la personne au coup de couteau, il a rendez-vous avec le chirurgien. Le patient se rend sur le lit d'examen. On lui ausculte le thorax. Il a un pneumothorax et de l'air passe sous la peau. Il a un décollement pneumothorax à cause du coup de couteau, commente le médecin. C'est normal, le chir a vu sa radio, il n'y a rien de particulier. La douleur va baisser en fonction. Le patient est torse nu. Le docteur tire le rideau. Le médecin. Il a des douleurs résiduelles de la glace. La plaie est encore là. Ça va tirer sur les muscles. L'infirmière lui retire les fils. On va lui donner un traitement antibiotique et du paracétamol pour arrêter. L'infirmière. J'ai remis un pansement. Il peut le laisser jusqu'à demain. Le médecin. Il revient dans une semaine, mercredi. Il dort dans la jungle. Carnet de terrain à la passe de Dunkerque, 9 mai 2018. Le médiateur linguistique fait entrer un patient. Le médecin le regarde en coin. Le patient a sauté d'un camion. Il enlève ses chaussures et insiste sur la douleur. Oui, j'ai compris, mais le médecin, il est aussi attiré par ce qui ne fait pas mal. Vous vous êtes pas cassé l'os, mais vous vous êtes abîmé le tendon. Il est bien tombé sur les pieds ? Le médecin tâte et lui demande de montrer l'autre pied. Le patient est surpris. Par comparaison, il a mal quand je pose mon doigt ? Le médiateur linguistique. Ouais, il a mal à l'intérieur. Le médecin. On va faire une radio. Je pense pas que ce soit cassé, mais il s'est peut-être fêlé quelque chose. Quand vous marchez, et la nuit, ça vous fait mal ? On va faire une radio. Est-ce qu'il a pris des médicaments ? Ouais, il a utilisé un traitement qu'on lui a donné. Le médecin retâte, secoue le pied nu. Il se lave les mains. Carnet de terrain, passe de Dunkerque, septembre 2015.
Comme je suis anciennement journaliste, dans cet essai, il y a une inspiration avec les techniques journalistiques. Par exemple, si on prend cet essai est composé d'extraits de carnets de mes terrains, et la retranscription de ces carnets de terrain se fait un peu sous forme journalistique, où en fait je recoupe les faits, j'essaye d'établir une description très précise comme on nous l'apprend en reportage, et l'écriture est très ethnographique et basée sur de l'observation non participante. Et je m'attache toujours dans ces extraits de carnets de terrain, par exemple, à mettre de l'ambiance. Là où je me suis aussi inspirée du journal, c'est en incrustant dans le livre des photos. J'ai aussi créé ce qu'on appelle une infographie pour retracer un petit peu et dater les différents événements migratoires à la frontière franco-britannique. Mais c'est un travail qui, effectivement, s'inspire des techniques journalistiques, mais qui vise vraiment à aboutir à une réflexion sociologique, puisque ça a été réalisé dans le cadre d'un doctorat en sociologie. Et donc, j'ai vraiment tenté de tendre vers la rigueur sociologique. Et j'ai mobilisé des concepts, mais je me suis toujours attelée à faire en sorte que cette conceptualisation, d'essayer de la rendre quand même compréhensible d'un grand public, pour que ça puisse être un livre dont tout le monde puisse s'emparer. Donc, quand j'explique un concept, je l'explique en détail. Et là où il fallait que je fasse attention quand on essaie de rendre compréhensible du grand public, c'est aussi de ne pas réduire et de ne pas rendre simplistes les idées. Donc voilà, c'est un travail qui est entre ces deux formes d'écriture, à la fois un peu l'écriture journalistique et ethnographique et l'écriture sociologique d'une chercheuse.
Merci à Chloé Tisserand pour sa participation à cette émission, enregistrée et réalisée par l'EPUV, avec le concours de la bibliothèque universitaire et le soutien du service communication.